Nous sommes trois professionnels virtuels et en isolation en éducation.
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux sommes toutes chez nous, derrière nos écrans, dans cette nouvelle réalité sans précédent.
Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore.
Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance. Bonjour les filles!
Allô, Vicky!
Ça va bien?
Ça va bien, on a des cafés dans la main, ça va bien.
On a notre rencontre café virtuel, autrement appelé toute la classe, c'est bien ça?
C'est exactement.
Puis on a commencé à 9h, mais toi et moi avant 9h. Alors, on a fait le tour de nos vies privées et on est prête à parler pédagogie.
Pédagogie, absolument, absolument. Alors, moi, je suis jamais la boss, mais c'est moi qui pose les questions ce matin. Alors là, si je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a fait depuis les dernières semaines et quelles 5 semaines qu'on a eues. On a parlé de maintenir un lien affectif, on a parlé du modèle SAMR dans le contexte de l'enseignement virtuel, on a parlé de la planification, on a eu des invités de tonnerre qui nous a parlé un petit peu du volet EED pour nos élèves qui en ont besoin. Alors là, évidemment, une fois qu'on a planifié, une fois qu'on s'est assuré que tous les besoins de nos élèves ont été comblés. Alors là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, nous autres, on a décidé qu'on va parler de l'évaluation ce matin. Alors, évidemment, on a fait tout ça, on a enseigné une leçon. On va pas juste les laisser partir, là, ces élèves-là. On va les évaluer. On va faire ce qu'on peut pour s'assurer qu'ils sont prêts pour l'année prochaine.
Ça sent les nookshooks. Attends, ça sent les nookshooks.
C'est vrai.
C'est intéressant qu'on a tendance à séparer l'enseignement et l'évaluation, mais en réalité, ça fait partie de la même chose. On ne peut pas enseigner sans évaluer et c'est évident qu'on ne peut pas évaluer si on n'a pas enseigné. Mais le but ultime de l'évaluation, c'est toujours l'amélioration de l'apprentissage. Puis je suis certaine qu'on va en parler en profondeur.
Ça me rappelle tout ce que tu viens de dire, parce que quand tu dis que l'évaluation, ça devrait toujours rentrer dans la planification et dans l'enseignement en général, c'est un petit peu comme quand tu fais une planification à rebours, mais parce que, tu sais, on décide c'est quoi l'évaluation en premier et après ça, on va décider qu'est-ce qu'on va enseigner. Alors, mesdames, dans le nouvel contexte d'enseignement virtuel, nous avons appris qu'on a besoin de faire beaucoup de choses très, très différemment. Mais sauf qu'il y a une chose qui reste pareille, c'est qu'on a besoin éventuellement d'écrire des bulletins. Alors, est-ce que c'est la seule raison de faire des évaluations?
Oh, Vicky, je peux partager une petite anecdote avec vous deux.
Non, partage ton anecdote avec nous tous, pas juste nous deux.
OK. Mais dernièrement, les réseaux sociaux, je vais là-dessus, je vois des choses intéressantes et puis je vois souvent quelque chose qui me met en colère. Et j'ai appris dans les dernières semaines de confinement de ne pas réagir à l'écrit. Alors, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Mais j'avais vu quelqu'un sur Twitter, il y avait toute une réaction à une conférence de presse, puis il y a quelqu'un qui disait, on vient de nous annoncer qu'on ne peut pas baisser les notes des élèves. Alors, on va baser les notes sur ce que les élèves ont fait en salle de classe avant le lockdown. Et tout ce qu'on fait après, on peut augmenter les notes des élèves, mais on ne peut pas les baisser. Alors, pourquoi est-ce que je continue à enseigner? Ça, c'était le tweet. Si ton enseignement, le but de ton enseignement, c'est de pouvoir baisser les notes des élèves, tu le fais à l'envers. Si ce que tu enseignes n'a pas de valeur en soi, ben, tu es peut-être dans la mauvaise carrière. Puis, c'est pour ça, je pense, dans notre conseil que on propose de vraiment mettre l'emphase en ce moment sur les apprentissages essentiels. Parce que ce sont les apprentissages que nos élèves doivent maîtriser avant de pouvoir continuer l'année prochaine. Parce que peu importe ce qui se passe maintenant, mes petits de 3e année vont être en 4e l'année prochaine. Mes jeunes de 9e vont être en 10e l'année prochaine. Alors, si je leur enseigne des détails, des choses intéressantes, mais qui ne sont pas importantes, oui, je peux comprendre que c'est juste l'évaluation qui importe. Mais si je sais que faut que mes élèves apprennent à bien structurer un paragraphe ou à justifier leurs idées, ben, je les prépare pour quelque chose d'important puis pour quelque chose qui va venir.
Oui, absolument. C'est pas, l'évaluation, c'est pas juste un travail que toi, tu fais. C'est un travail que l'enfant va vivre tout au long de sa carrière scolaire. Puis que, ultimement, quand moi, j'ai des élèves dans ma salle de classe puis que je les évalue, ça me permet d'avoir une vue globale sur leurs apprentissages. Je sais que fraction, ça va bien. Addition, double, ça va, c'est plus difficile. Mais ultimement, ça me permet d'avoir une capture dans le temps. Ouais, je vois l'évaluation un peu comme un GPS parce qu'on sait où on s'en va, on sait où on est, mais en fonction de comment l'enfant apprend, de qu'est-ce que l'enfant donne comme performance, on va peut-être pas prendre le même chemin.
Mm-hmm. J'aime beaucoup tout ce que vous venez de dire. C'est comme un petit peu d'après, comme lorsque j'écoute Jennifer, c'est vraiment, moi j'entends une évaluation, c'est pas juste le fait d'évaluer, c'est pas le fait juste de fournir des notes dans le bulletin, mais c'est vraiment une vérification des acquis. En jumelant avec l'analogie de Mylène, c'est un petit peu, on sait où est-ce qu'on est, on sait où est-ce qu'on aimerait y aller, mais est-ce qu'il nous manque du gaz? Est-ce qu'il nous manque des pièces dans l'auto? Est-ce qu'il manque des collations dans la voiture pour pouvoir aller à ce prochain endroit-là?
J'aime beaucoup ce que tu dis, Vicky, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, puis on se demande pourquoi les élèves ne sont pas motivés. Alors, si je reprends l'exemple du paragraphe bien structuré, si je dis à mon élève, tes idées ne s'enchaînent pas de façon logique, ton paragraphe n'est pas bien structuré, mais je ne lui ai pas donné les outils, je n'ai pas fait l'apprentissage, je n'ai pas fait l'enseignement de qu'est-ce que c'est qu'un bon paragraphe, comment est-ce que c'est structuré, voici des modèles de bons paragraphes. L'élève ne va pas être motivé à essayer d'améliorer ce qu'il a fait. Alors, c'est l'enseignement, l'évaluation, la rétroaction descriptive et, encore une fois, la chance d'aller améliorer, de travailler là-dessus.
Mm-hmm. Puis, je pense que... Attends, ça sent l'inukshuk? Puis, je pense que ultimement, c'est pour ça que l'inukshuk, c'est des stratégies gagnantes pour l'évaluation en tant qu'apprentissage, au service de l'apprentissage, mais pas de l'apprentissage. Parce que quand on parle d'évaluation de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelait avant, et ça, c'est des termes qu'on n'utilise plus, là, mais l'évaluation sommative, la note qui compte à la fin. Parce que ultimement, l'enfant qui reçoit son évaluation, qui a un beau 8 sur 10, avec des beaux commentaires, puis de la rétroaction, mais qui n'a pas le droit de reprendre l'examen en soi, bien, l'enseignant a perdu son temps en mettant des commentaires, puis l'enfant perd son temps en lisant les commentaires.
Absolument.
Oui, mais, madame. J'allais dire, ça sent pas seulement l'inukshuk, mais ça sent le faire croître le succès aussi, mais tu l'as dit avant moi. Alors, si on regarde les trois types d'évaluation, comme tu viens de dire, et je sais pas si tout le monde en est familier, surtout les gens qui nous écoutent de l'extérieur de l'Ontario. Alors, l'enseignement au service de l'apprentissage, c'est vraiment ce qu'on appelait avant l'évaluation formative pour savoir où s'en aller avec l'élève. En tant qu'apprentissage, c'est que l'élève apprend en faisant l'évaluation de lui-même ou d'un pair. Et puis, de l'évaluation, c'est évident que c'est l'évaluation sommative. Mais j'aimerais ajouter que même l'évaluation sommative, le but est d'améliorer l'apprentissage des élèves, ou un début. Parce que, oui, ça sert à informer le parent et l'élève, mais ça sert aussi à prendre toutes les preuves d'apprentissage, disons dans le troisième trimestre, à l'élémentaire, et puis d'aller voir, voici tes notes, puis voici tes tâches sommatives au mois de décembre, au mois de février. Quel lien est-ce que tu vois? Quel objectif est-ce que tu pourrais te fixer? Alors, tous les types d'évaluation, ça sert à améliorer l'apprentissage.
Je suis d'accord, mais je te dirais que bien souvent, tristement, on ne va pas aller revoir, on ne va pas aller se questionner par rapport aux notes sur le bulletin, par exemple. On ne va pas... Alors, une des pratiques qu'on propose en présentiel quand on est en salle de classe, c'est de lire le bulletin avec l'enfant puis lui demander qu'est-ce qu'il en pense puis c'est quoi ses objectifs pour le temps d'ensuite. Pour ceux qui nous écoutent, alors ce que Jen vient de proposer quand on parle de l'inukshuk, quand on parle de faire croître le succès, Par contre, le succès, c'est la politique d'évaluation qui est en Ontario. Alors, si vous cliquez « Faire croître le succès dans un moteur de recherche », vous allez le trouver. Il y a aussi le complément pour la maternelle jardin. Et l'Inukshuk, c'est le document qui a été créé par le CFORP pour résumer, illustrer le « Faire croître le succès ». Alors, je permets à tout le monde de se situer dans le temps.
Et tout ça, c'est accessible sur Internet gratuitement. Si vous ne connaissez pas déjà ça, ça va être vraiment des documents qui sont parfaits, que vous pouvez l'adapter à vos besoins. Et évidemment, pour les enseignants de l'Ontario, bien, c'est vraiment un outil à revisiter souvent.
Nous, c'est une politique, donc ça doit être présent dans les salles.
Oui, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire. Alors, Jennifer, tu as mentionné un petit peu les trois types d'évaluation. Alors, l'évaluation au service de l'apprentissage, en temps d'apprentissage et de l'apprentissage. Alors, on a parlé un petit peu qu'est-ce que c'est. Mais là, évidemment, quand on est en salle de classe, souvent, on va faire ces trois types d'évaluation, soit là, ça sent la triangulation. T'sais, on va aller recueillir des observations, des preuves, des productions ou des conversations. Là, ça va, là, dans la salle de classe, certains d'entre nous, c'est comment le faire, certains d'entre nous, peut-être pas. Mais là, dans le contexte de l'enseignement virtuel, comment est-ce qu'on va faire ces trois types d'évaluation-là?
OK. Bien, je pense que au niveau de la triangulation, j'avais suivi une webinaire avec le ministère, puis ce que la dame disait, c'est que au niveau des observations, c'est vraiment difficile en ce temps-ci parce qu'on n'est pas avec l'élève, on n'est pas là pendant qu'il réfléchit, on n'est pas là pour voir comment il est en train de manipuler. Fait que ça devient difficile. Fait qu'il faut être créatif dans la façon où on peut collecter des observations chez les enfants. Pour les productions, c'est tout ce qui est apprentissage à la maison, c'est les devoirs qu'on demande, c'est les photos que les parents nous envoient, c'est ce que l'enfant est en train de faire à la maison. Puis les conversations, à mon avis, ça devient une mine d'or dans le contexte dans lequel on est. Parce que si je travaille en petit groupe ou en individuel avec l'élève, je prends en note tout ce qu'il me dit pour être capable ultimement de porter un jugement sur ses apprentissages. Puis voir cibler ensemble sa prochaine étape. Si je lui demande de faire une résolution de problème, par exemple, puis que je vois qu'il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas quelle opération utiliser, il sait pas. Ça, c'est de l'information en or pour nous pour savoir, OK, pour se rendre à la fin, là, notre destination, c'est la résolution de problème. Bien, il faut que je revoie avec lui quelle opération utiliser à quel moment. Alors, ça me donne énormément d'informations sur ce qui s'en vient puis qu'est-ce qu'on va vivre ensemble pour les prochains jours en enseignement.
Mm-hmm. Puis, pour parler un peu plus de tout ce qui est le côté pratique, comment est-ce qu'on va le faire? On a parlé dans les dernières semaines à l'intérieur du conseil, on a donné plein de formations sur des outils, des applications que les enseignants peuvent utiliser pour varier un peu comment ils interagissent avec les élèves puis comment ils amassent des preuves d'apprentissage. On a parlé de Flipgrid, on a parlé de Padlet, on a parlé des quiz, Kahoot, quizzes, toutes sortes d'affaires où les élèves travaillent chacun de leur côté, mais finalement, il y a quelque chose qu'on peut voir. On a parlé de comment transformer les tâches pour que, parce qu'on a vu que les examens, les tests papier-crayon, ça ne marche plus. Parce qu'il y a des profs au début du confinement qui avaient des tests de prévu avec les élèves, ils les ont envoyés à tout le monde en même temps. Puis les élèves se parlaient, tu sais, en faisant le test avec leurs appareils, se poser des questions, tout le monde ils googlaient. Alors ça ne marche pas. Ce qui marche maintenant, c'est poser des questions ouvertes, poser des questions d'opinion, de justification, où on dit que les réponses ne sont pas googlables. On ne peut pas juste faire une recherche pour trouver. Ce n'est pas des faits, c'est vraiment les habiletés de la pensée qu'on veut voir.
Et les compétences transférables aussi peuvent être intégrées dans tout ça, de voir comment l'enfant communique ses réponses et tout.
Exactement. Puis, on a parlé aussi du fait qu'il faut que les élèves soient motivés. Puis, j'ai écouté l'autre jour sur le CBC, c'était tellement intéressant d'entendre la voix des parents, des enfants, des enseignants, des experts dans le domaine. Mais les enfants disaient exactement ce qu'on a toujours dit à propos de l'enseignement à distance. Puis, certains étaient des étudiants à l'université aussi. C'est plus difficile. c'est plus difficile de me motiver. Quand je ne dois pas aller en classe demain matin à 10 heures, puis je sais que si je ne donne pas le travail à madame, à monsieur, tu sais, il va y avoir comme au moins un regard de déçu. Alors, il faut que les élèves restent motivés. Il faut qu'on leur propose des tâches intéressantes, puis en lien, encore une fois, des tâches authentiques. Alors, il y a beaucoup qui se passe en ce moment. Alors, pourquoi pas leur demander dans un texte d'opinion d'écrire qui est-ce que vous blâmez ou qui est responsable, selon vous, pour le taux élevé de COVID à New York? Mm-hmm. Ou qui devrait être responsable pour nous protéger? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les médecins? Tu sais, comme il y a plein de choses dans l'actualité qui pourrait intéresser nos élèves en ce moment.
Puis encore, comme Vicky dit tout le temps, des pratiques gagnantes en salle de classe et des pratiques gagnantes en enseignement virtuel. Et puis ça, là, c'est des pratiques gagnantes en salle de classe. De prendre les enfants, de leur faire vivre l'apprentissage de par ce qu'ils sont en train de vivre, c'est toujours une pratique gagnante. La ressource pédagogique, elle nous montre... OK, enseigner le carré, de blablabla. Il y a certaines séquences, là, mais ça, c'est de la soupe Lipton quand t'as le goût d'un gros steak, là. Amène-moi les notions du carré avec quelque chose qui va m'allumer, qui va m'intéresser, qui va me garder concentrée. C'est ça, la magie, là, derrière l'enseignement.
Oui, comme par exemple, là je vous écoute, puis vous avez donné tellement de belles exemples. Comme tu sais, un exemple que j'ai en tête, c'est que je vois beaucoup un petit peu une combinaison avec Jen, qu'est-ce que tu avais dit tantôt avec l'outil Flipgrid, mais là, ça, j'avais vu déjà des exemples des élèves qui sont en train de faire une recette à la maison. Alors là, tout le monde peut prendre une vidéo. Alors à l'intérieur de ça, il y a tellement de connaissances ou des acquis qu'on peut...
Des apprentissages essentiels.
Et des apprentissages essentiels qu'on peut apprendre. Alors, évidemment, de côté de l'enseignant, d'essayer d'aller chercher les preuves où est-ce qu'on peut. C'est vraiment ça, je trouve.
Oui. Bien, je vous avais parlé il y a quelques semaines de l'enseignant, un de mes amis, Kitchener, qui avait proposé aux élèves de la première année, qui travaillaient sur les structures en première année, de construire un fort, puis soit d'envoyer une photo ou une vidéo, puis d'expliquer comment ils avaient créé leur structure, puis il y avait certains critères pour la structure. Puis la semaine d'après, pour la santé, ils leur avaient demandé d'envoyer des photos de leur repas, puis de parler, là, ils doivent parler des groupes alimentaires. Est-ce que tu manges 3 fois par jour? Oui. Si tu as 6 ans, est-ce que tu construis un fort à la maison pendant que tu es en confinement? Probablement. Oui. Alors, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super compliqué pour mousser la motivation des élèves et des parents qui vont trouver ça beaucoup plus intéressant que d'essayer d'imprimer un autre PDF.
Oui, tout à fait. Puis je te dirais que c'est là que, puis ça je le répète souvent, là, c'est là que la beauté de l'enseignement en maternelle-jardin vient, l'expérience de maternelle-jardin. Quand on est en... L'idée de faire croître le succès, le complément, c'est que l'enfant va jouer, l'enfant va faire ce que l'enfant fait et c'est l'adulte qui est dans la salle de classe qui va regarder ce que l'enfant fait puis qui va aller y joindre ou il va aller greffer les éléments du curriculum pour leur dire « Ah, t'es en train de faire un fort. » Bon, un fort, c'est pas dans le maternel-jardin, mais t'es en train de faire un fort. Est-ce que t'es capable de voir ici, tu sais, en questionnant l'enfant puis en verbalisant ce que l'enfant fait, je suis capable d'aller greffer le curriculum, le programme. Mais pour les premières à la 12e, c'est l'inverse. On propose l'activité qui est directement en lien avec le programme, puis l'enfant vit cette activité-là. Mais en période de confinement, c'est difficile. C'est vraiment difficile de s'assurer que l'enfant va faire ce que j'avais imaginé dans cette activité-là à la maison.
Moi, je trouve que c'est important. Oui, c'est vrai qu'on va leur proposer puis on va s'assurer qu'ils comprennent qu'est-ce que nous autres, on est en train de chercher. Puis si j'écoute, ben là, encore une autre fois, ça sent les résultats d'apprentissage, les critères de réussite. Oui. Dès que, si on les co-construit avec nos élèves dans une rencontre qui est en salle de classe, on pourrait vraiment s'assurer que l'élève sait exactement ce qu'on cherche dans notre tête en combinant tout ça avec les apprentissages essentiels, les CR, les RA, L'élève, quand il produit une vidéo ou s'il produit un texte d'opinion, il va être capable de mettre tous les éléments dans la preuve d'apprentissage. On a fait un survol très rapide des différents types d'évaluation, puis comment est-ce qu'on peut ramasser des preuves d'apprentissage. Puis là, je vais faire référence à un commentaire que tu avais dit la dernière fois, Mylène, c'est que, tu sais, lorsqu'on est dans la salle de classe, si on fait des évaluations, parfois ça va être dans l'appareil avec des vidéos, parfois ça va être des papiers. Et là, ce qu'on va vivre, c'est le syndrome de bureau très, très mal arrangé. Alors là, tu as des papiers qui sortent de droite et de gauche, on ne sait plus comment l'organiser. Puis évidemment, avec le temps, dans la salle de classe, on trouve des façons de s'organiser. Mais là, en enseignement virtuel, comment est-ce qu'on peut le faire?
Ouais. Ça, c'est une excellente question. Puis tu vois, quand Jen était mon accompagnatrice, il y a de ça un peu de temps, là, mais pas tant que ça, parce qu'on est encore jeunes, là, mais, j'avais une formation avec Jen, puis c'était Ralph qui la donnait. Puis mon bureau, moi, j'ai comme idée que j'en veux pas de bureau dans ma salle de classe. Oui. L'espace, c'est pour les élèves. Fait que là, on avait, bon, question de restriction d'espace, de rangement. Il fallait que je garde mon bureau. Fait que c'est devenu, je sais pas si c'est le mot approprié ou je sais pas si c'est même politiquement correct de dire, mais c'était un foutoir. C'était, on mettait n'importe quoi. Il y avait, écoute, c'était catastrophique. Puis je le mettais dans le coin pour pas que personne le voie. Mais... Puis là, Ralph nous donne la formation sur le EAV, sur le portfolio numérique. Et à l'intérieur d'une semaine, mon bureau est devenu un espace de travail que les élèves pouvaient utiliser. Là, j'étais « wow ». Ouh, wow! Fait que c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. On est en train de vivre que là, on n'a plus accès à « oui, viens le donner à madame, puis viens me donner ton cahier dicté, puis quand j'aurai 2 minutes, je vais le corriger. » Ça, c'est plus un choix. C'est plus une possibilité. Fait que là, ce que ça fait, c'est que j'envoie des devoirs, j'envoie de l'apprentissage à la maison via Teams, je reçois des courriels, je reçois des photos, je reçois des textes, je reçois des PowerPoint, je reçois des liens web, je reçois des liens de YouTube, je reçois... Fait que ça devient vraiment difficile de garder la tête hors de l'eau quand on regarde tout ça, puis de faire, OK, est-ce que je suis capable de porter un jugement sur ce que Vicky vient de m'envoyer? Si j'ai des choses qui sont dans les sites web, j'ai des choses qui sont dans Teams, j'ai des choses qui sont... Ça devient vraiment difficile.
Puis moi, je vais donner une anecdote que moi, j'ai vécue quand j'étais en salle de classe. À chaque vendredi, moi, ce que je faisais, c'est que je demandais à mes élèves de faire un rangement, tu sais, un nettoyage des pupitres, de tout l'espace dans la salle de classe. Puis souvent, durant ce moment-là, moi, je passe, je vais les aider un petit peu. Jusqu'à un moment donné, il y avait un élève qui m'avait dit, « Mais tu sais, madame, regarde ton bureau, il est vraiment mal organisé. Peut-être que toi aussi, tu devrais faire un petit rangement. » Alors, c'est là que j'ai compris que... ouch! C'est vraiment un ouch! Et je me souviens très bien de cet élève-là et je l'aime au bout, là. Et vraiment, ce que j'ai appris de ça, c'est que la tâche peut paraître très, très large, que ce soit en personne ou en virtuel, mais si on le morcelait, comme on va morceler nos leçons pour les élèves, puis si on se fixait une date à le faire assez régulièrement, c'est quand même une tâche qui est faisable. Il y a beaucoup, beaucoup de petits trucs et astuces que j'ai appris et on vous invite vraiment de trouver une façon qui est propre à vous.
Bien, ce que tu avais mentionné dans les formations cette semaine, les formations à distance, évidemment, bien, quelque chose que tu avais montré cette semaine, Vicky, c'est que quand tu regardes les résultats d'un quiz en ligne, en Kahoot ou en Quizzes, tu vas sur la page qui montre les résultats de l'élève ou les réponses de l'élève, tu prends une capture d'écran. Puis c'est super simple, soit en utilisant l'outil capture, le control imprime écran, quoi que ce soit, tu prends la photo et puis tu le copie-colle tout de suite dans le portfolio de l'élève.
Aussi simple que ça. Bingo!
Oui, alors un portfolio d'élèves, il a dans notre contexte, ça peut exister sous n'importe quelle forme que vous voulez, que vous êtes confortable avec. Ça peut être un OneNote, ça peut être un simple fichier dans votre OneDrive, un fichier qui est nommé avec le nom de votre élève et tous les preuves d'apprentissage peuvent rentrer là-dedans. Et c'est à vous autres de décider. Et sans l'avoir essayé, c'est difficile de vous dire, prends seulement cet outil-là et c'est vraiment par essai-erreur que vous allez vraiment trouver la meilleure façon pour vous.
Je dirais qu'avec le OneDrive, c'est que ce qui est bien avec ça, c'est qu'après ça, chaque fichier des élèves, je peux leur partager, tout dépendant de l'âge des enfants, bien sûr. Puis l'enfant peut être autonome dans lui-même, aller déposer ses travaux à l'intérieur de son dossier, ce qui fait que moi, je sauve une étape. Mais ultimement, si je le fais à mesure que je reçois les informations puis que je vais les... Parce que, tu sais, c'est pas parce que la date de remise est le 14 que je reçois tout le 14. Je vais en recevoir un ou deux le 9, un ou deux le 10. Puis si à mesure que je vais tout entreposer à la bonne place, bien, quand ça va être le temps de rédiger les bulletins, j'aurai pas à tout organiser slash tout écrire.
Une chose dont on ne parle plus depuis le confinement, mais dont on parlait tout le temps avant, c'est ça. Ça existe encore. Si tu avais un compte CISA avant, tu l'as encore. Alors, prends tes preuves d'apprentissage, place-les dans le CISA. C'est facile d'aller voir par élève et puis avec les balises de matière, toutes les preuves pour un enfant et les parents et l'enfant vont les voir aussi.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'y pense vraiment plus. Ouais. C'est comme Mylène avait dit l'autre jour, c'est comme, tu sais, on fait du app smashing, mais on est en train de faire vraiment une combinaison, un programme, program smashing. Tu sais, on utilise vraiment tous les outils qui nous sont disponibles et vraiment de créer un portfolio qui va nous parler parce qu'au bout de la ligne, c'est qu'on veut s'assurer d'être capable, encore une autre fois, je retourne à notre conversation initiale, d'être capable de vérifier les acquis de nos élèves et de s'assurer qu'ils ont une bonne fondation pour l'année prochaine aussi.
Absolument, absolument.
Oui.
Là, on vient de parler de OneDrive, puis on a parlé de OneNote. Et ça prend les élèves qui sont un peu plus autonomes au niveau du clic ici, clic là, pour aller chercher, pour aller voir, pour aller déposer les informations. Mais pour les plus jeunes ou pour n'importe qui, honnêtement, un de mes coups de cœur pendant le confinement, c'est la découverte de l'application ou du site web Book Creator. Alors, qui peut devenir, encore une fois, comme on parlait des portfolios numériques individuels où l'enfant peut aller déposer ses preuves d'apprentissage, mais que l'adulte est là pour voir tout ce qu'il fait. Alors, ultimement, si chaque enfant a un livre et que tout est entreposé à la même place, quand c'est le temps d'écrire mes bulletins, je prends le livre Jennifer, je feuillette et je peux avoir une bonne idée, une vue d'ensemble sur ce qui a été fait pour porter un jugement sur son apprentissage. Et parce que, ultimement, c'est l'apprentissage qu'on veut.
Je pense que ça sent toute la classe recommande.
Oui! Alors, cette semaine, Jen, on parle de quoi dans toute la classe recommande?
On va parler de Book Creator.
Exact. Et ça, c'est, encore une fois, c'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment un bel outil, facile à utiliser. Et ça, vous en saurez plus sur notre chaîne Toute la classe recommande sur la plateforme de Aide Pédago sur YouTube.
Et on vous promet qu'on a vraiment réglé notre problème de son. Alors, nos premiers tutoriels, il y avait pas mal d'écho, mais maintenant, c'est de toute beauté, c'est professionnel.
Parce qu'en fait, vous autres, au début de confinement, vous étiez dans une cave, là, dans la montagne, puis après ça, là, vous êtes sortis de la cave. Là, vous êtes vraiment dans la civilisation. C'est ça que je voulais dire.
On était dans un bocal.
Un bocal, oui, en effet, en effet. C'est vraiment incroyable comment que, à chaque fois, en discutant avec vous, qu'on peut vraiment faire un tour, un survol, malgré le fait que c'est un survol, mais qu'on peut vraiment faire le tour d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est vraiment important. Et surtout, encore une autre fois, je le répète, que dans le contexte actuel, ça nous aide à faire des réflexions très important, puis ça aide les enseignants à faire la réflexion, parce que des fois, quand on est en train de vraiment faire le travail, on n'a pas le temps de s'asseoir puis réfléchir, puis c'est vraiment, on laisse la chance à nos enseignants de réfléchir, puis d'aller un peu plus loin à chaque fois. Oui, Mylène?
J'aime ce que tu dis de prendre le temps. On n'a pas le temps, prenons le temps. Parce que c'est beaucoup plus facile de rester positif avec tout ça si on est capable de s'asseoir, de réfléchir, de... Pour porter un jugement sur ce que l'enfant est en train de faire, je dois avoir un certain regard, je dois avoir une mentalité où je suis prête à le faire. Si je broie du noir puis que j'évalue, ben, je vais évaluer du noir.
Alors, et j'aimerais dire aussi à tous les enseignants, tous les éducateurs qui nous écoutent, que soyez fiers de vous-même. Je pense qu'on a fait un super beau travail. Fort, on voit que, tu sais, vous vous préoccupez du bien-être de vos élèves, mais préoccupez-vous de votre propre bien-être aussi et de celui de votre famille.
Oui, prenez du temps pour célébrer vos réussites.
Et on veut les entendre aussi si vous voulez les partager, toujours.
Oui.
Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine?
Ah, oh, attends. Oui, j'ai le document juste là. Attends. La semaine prochaine... Ah, oh, c'est un sujet qui me tient à cœur. La semaine prochaine, on va parler de l'apprentissage à la maison. Bon, apprentissage à la maison, souvent quand on dit apprentissage à la maison, les gens vont entendre devoir. Non, on parle d'apprentissage à la maison. Alors, de voir la différence entre les deux, parce qu'on garde en tête que selon faire croître le succès, les devoirs ne peuvent pas être un objet d'évaluation. Et ainsi, ben tout est fait à la maison, alors tout ne peut pas être des devoirs. Alors, on va parler de tout ça. Ça va être un sujet super intéressant. On va voir qu'est-ce qu'on propose aux élèves.
Avant de partir, moi, je rappelle à tout le monde, de notre conseil, là, surtout, d'aller revérifier les apprentissages essentiels, d'aller revérifier le site sur l'évaluation à distance, les trucs et astuces, comment modifier une tâche, aller revoir, faire croire le succès et aller revoir les Nookshooks aussi. Alors, avec tout ça, vous êtes vraiment comblé dans tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans l'évaluation en enseignement à distance.
Et je vais essayer de me rappeler de partager la majorité de tout ça avec vous sur la page Facebook et possiblement sur Twitter aussi.
Oui, super. Alors, mais merci beaucoup les dames d'avoir pris le temps de faire une tellement belle conversation et on se dit à la prochaine.
À la semaine prochaine!
Salut!
Salut!
Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.